Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le gouvernement détaille la liste des économies prévues dans chaque ministère pour contenir le déficit à 3% du PIB dès cette année. 4,5 milliards d'euros récupérés donc sur le seul budget de l'État. C'est ce qu'annonce le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, dans un entretien au Parisien ce matin. Précision avec Camille Magnard. Les membres des Républicains ralliés à Emmanuel Macron pourraient être exclus de leur parti. Décision ce soir des instances LR réunies dans leur QG parisien. Une enquête de l'UNEDIC sur le profil des chômeurs en 2016, autant d'hommes que de femmes allocataires d'une indemnité chômage, mais parmi eux, près de la moitié travaillaient, compte rendu de cette enquête avec Anne-Laure Chouin. La Maison Blanche, c'est l'affaire des ingérences russes. Le fils aîné de Donald Trump reconnaissait hier avoir rencontré une avocate russe en pleine campagne électorale et selon le New York Times ce matin, il s'agissait bien d'obtenir des informations sur Hillary Clinton auprès d'une avocate liée au Kremlin. Dossier suivi par Nadine Epstein. Les espèces de vertébrés reculent de manière massive, à la fois en nombre d'animaux et en étendue. Article de la revue américaine de l'Académie des sciences qui évoque une défaunation aux conséquences potentiellement graves pour les écosystèmes. Précision de Laure Verneau dans cette édition. Et puis le grand oral devant le Comité international olympique pour Paris et Los Angeles, deux villes qui présentaient ce matin donc leur dossier de candidature à l'organisation des JO 2024. On retrouvera à Lausanne Rémi Brancato. L'invité de la séquence interview en direct de l'Assemblée nationale, Adrien Quatennens, député France Insoumise du Nord. Mais d'abord donc cette recette du ministre des Comptes publics pour ramener le déficit budgétaire sous les 3% dès cette année. Interview au Parisien ce matin de Gérald Darmanin qui annonce 4,5 milliards d'euros d'économies donc en 2017, 4,5 milliards sur le seul budget de l'État. La plupart des ministères donc seraient touchés. Sans diminution, dit-il, des effectifs, des fonctionnaires, ni même des minima sociaux. Camille Magnard, bonjour.
Bonjour.
Alors comment le ministre des Comptes compte-t-il s'y prendre ?
Eh bien finalement Antoine, il s'y prend un peu comme l'avaient fait tous ses prédécesseurs avant lui. Il explique qu'il va couper dans le gras, dans le train de vie des ministères, des dépenses de fonctionnement, de gestion qui avaient déjà été mises à contribution, à en croire les précédents gouvernements, mais où Gérald Darmanin assure avoir identifié 4,5 milliards d'euros d'économies, garantie selon lui 100% indolore pour les Français. Tous les ministères vont être mis à contribution d'ici à la fin de l'année. Moins 268 millions d'euros de budget pour Bercy, 850 millions d'euros de gel de dépenses confirmées pour nos armées pour financer des opérations extérieures. Il va falloir trouver des économies ailleurs, sans précision du ministre. Moins 526 millions pour l'intérieur, sans un seul poste, nous dit-on, de policiers supprimés. Moins 282 millions pour le Quai d'Orsay. Ça, ce sera pour moitié en rognant sur l'aide au développement. Moins 75 millions pour l'éducation nationale avec des effectifs maintenus, nous dit-on, à la rentrée. Ainsi de suite pour tous les ministères. Sauf que si on sort la calculatrice, on se rend compte que Gérald Darmanin annonce dans le Parisien un total de 2,5 milliards d'euros d'économies et pas les 4,5 milliards annoncés. Sur les méthodes utilisées, on nous parle de réduire les parcs automobiles des ministères ou de revoir les procédures d'appel d'offres. Là encore, ce sont des leviers d'économie qui ont déjà été largement éprouvés par les gouvernements précédents. Et puis le ministre des Comptes publics, vous l'avez dit Antoine, explique qu'avec cet effort budgétaire sans précédent, on reviendra mathématiquement à un déficit public inférieur à 3% du PIB et donc que la France tiendra dès cette année ses engagements budgétaires vis-à-vis de l'Europe. Et pourtant, on est loin du calcul qui avait été fait à la fin du mois de juin par la Cour des comptes. Pour elle, c'est le double, 9 milliards d'euros que l'État devrait économiser pour revenir sous la barre des 3%.
Alors, bon, en admettant que ce soit 4,5 milliards et s'ils sont effectivement trouvés d'ici la fin de l'année, il faut bien voir que rien ne sera pour autant réglé pour 2018 parce qu'on parle encore du double ou du triple d'économies nécessaires.
Oui, l'an prochain, on devrait tabler sur 3 fois plus d'économies à réaliser, 17 milliards toujours selon la Cour des comptes. Et là, pour le coup, on ne devrait plus pouvoir tailler dans les dépenses de fonctionnement puisque ça aura été fait cette année. Alors Gérald Darmanin annonce qu'il va falloir aller chercher des économies du côté cette fois de la politique du logement, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il précise aussi qu'il n'y a pas de tabou sur la réduction des niches fiscales. On serait tenté de lui rappeler qu'en même temps il faudra tenir les engagements de réduction des impôts, réaffirmés ces derniers jours, exonération de la taxe d'habitation, réduction de l'ISF, plafonnement de la taxation du capital à 30%. Tout ça ce sont des promesses qu'Emmanuel Macron s'est engagé à tenir, mais ce sont aussi et surtout des recettes en moins qui s'annonce pour l'État.
Merci beaucoup Camille Magnard, en tout cas pour Éric Woerth, président Les Républicains de la Commission des Finances de l'Assemblée. Il y a un peu de mise en scène dans ces annonces d'économie faites par M. Darmanin, à qui il demande de préciser comment il compte notamment économiser 850 millions d'euros sur la défense, 526 millions sur l'intérieur. D'ailleurs, ces annonces semblent assez mal passées déjà à la Défense. La ministre des Armées, Florence Parly, décide de reporter un déplacement prévu aujourd'hui à Mont-de-Marsan pour poursuivre donc des négociations budgétaires pour son ministère. Édouard Philippe annule de son côté sa présence à la réunion du groupe La République En Marche à l'Assemblée pour recevoir la ministre de la Défense. Les Républicains se réunissent en fin de journée dans leur QG parisien. Au menu, eh bien, c'est la mise à la porte potentielle de plusieurs grandes figures du parti, à commencer par le Premier ministre lui-même, trois membres du gouvernement, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, et puis deux députés dits constructifs, Thierry Soler et Franck Riester. Au total, six courriers qualifiés de convocation, d'exclusion par M. Soler ont été transmis aux intéressés. Le numéro un des Républicains, Bernard Accoyer, appelle ce matin son parti à ne pas tomber dans le piège qui consisterait à exclure en bloc ces constructifs, mais certains dirigeants réclament bel et bien leur éviction pour avoir pactisé avec l'exécutif. C'est le cas du député LR Guillaume Larrivé, invité ce matin de France Info.
Lorsqu'on joue au football et qu'on appartient à une équipe, on ne choisit pas au milieu du match de changer d'équipe pour rejoindre l'équipe adverse. Eh bien, en politique, c'est comme en sport, il y a des règles du jeu. Lorsqu'on est dans l'opposition, on n'est pas dans la majorité. Ça ne veut pas dire qu'on va être une opposition bête et méchante qui systématiquement votera contre tout ce que pourra proposer le gouvernement. Je considère que nous ne sommes pas soumis à l'Élysée et à Matignon. Ceux qui ont fait le choix de la soumission à l'Élysée et à Matignon, par définition, n'ont pas vocation à rester membre de la principale force d'opposition que nous sommes.
Guillaume Larrivé, donc député LR sur France Info. Thierry Soler indiquait de son côté que s'il devait être exclu des Républicains, eh bien il déposerait un recours devant la commission des recours du parti où siège notamment Gérald Darmanin d'ailleurs. Par ailleurs, Jean-Christophe Lagarde, qui est le président de l'UDI, il estime que le comportement des députés de la République En Marche dans l'hémicycle et en commission fait craindre, je cite, un panurgisme parlementaire qui effacerait toute capacité de débat. Fin de citation. On passe à cette enquête de l'UNEDIC qui parle du profil des chômeurs qui les a étudiés en 2016. Il y a autant d'hommes que de femmes qui sont allocataires d'une indemnité chômage, mais parmi eux, la moitié, donc en 2016, travaillait. 767 000 chômeurs cumuleraient donc allocations et salaire. Il faut peut-être expliquer le phénomène, Anne Lanchouin.
Oui, sans surprise, il est lié à la précarisation de l'emploi et à la montée en puissance des contrats courts. Vous l'avez dit, près d'un allocataire sur deux travaille, soit à plein temps, mais en CDD, soit à temps partiel. Dans ce cas, Pôle emploi comble ses revenus dans les périodes interstitielles. L'allocataire, lui, la plupart du temps, n'a pas trouvé de contrat soit suffisamment long, soit suffisamment sécurisant pour se désinscrire. C'est l'UNEDIC qui en fait l'observation. Une situation dont profitent certaines entreprises qui vendent avec ces contrats courts la possibilité pour les employés de se faire indemniser dans les périodes de chômage avant de revenir en CDD, parfois dans la même entreprise, de recharger leurs droits puis de repartir au chômage, etc. Une façon finalement de faire peser sur le service public de l'emploi la flexibilité dont les employeurs estiment avoir besoin. Or, les fins de CDD, si il y a 30 ans ont pointé majoritairement au chômage après un licenciement, c'est donc aujourd'hui une minorité des cas, 9% seulement des allocataires. La plupart des allocataires de Pôle emploi ne profitent pas de la totalité de leurs allocations, il faut le savoir aussi. Ils savent tous que plus la durée d'allocation augmente, plus leur employabilité baisse. La durée moyenne d'indemnisation est de 10 mois contre 2 ans maximum pour les moins de 50 ans. Pour terminer ce portrait robot de l'allocataire, il faut noter que c'est une femme dans 51% des cas et qu'il n'a pas le bac dans plus de la moitié des cas. Enfin, précisons que Pôle emploi ne comptabilise pas tous les chômeurs français, ceux qui sont radiés pour défaut d'actualisation, ceux qui ne travaillent pas depuis trop longtemps ou encore ceux qui n'ont jamais pu trouver les 4 mois de travail nécessaires à une première inscription.
Anne Lanchouin, merci. Avant de passer à l'actualité à l'étranger, on salue notre invité qui est en direct de l'Assemblée nationale, Adrien Quatrenens, député France Insoumise du Nord. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors bon, vous bataillez en ce moment à l'Assemblée contre cette loi travail. Vous êtes intervenu une première fois hier, vous avez 27 ans, vous avez intervention d'être remarqué par la presse, par les réseaux sociaux. Libération parle de vous comme de l'insoumis qui décoiffe l'Assemblée nationale. Il semble que votre coiffure soit bien en ordre pourtant. Est-ce que vous avez le sentiment d'être entré dans le costume de l'opposant et est-ce que ce costume-là n'est pas finalement assez limité parce que vous êtes relativement seul dans cet hémicycle ?
Bah écoutez, en tout cas, c'est un costume qu'il n'est pas difficile de porter parce qu'on a un hémicycle qui, vous l'avez dit, est composé d'une majorité qui domine largement avec des gens qui applaudissent en cadence, qui votent en cadence également. Et puis au niveau des discours, vous l'avez vu, on a beaucoup de discours, puis beaucoup de post-scriptum des discours qui viennent de passer. Donc c'est vrai que quand on porte une parole un peu contradictoire, on se fait forcément entendre et remarquer. C'était mon cas hier.
Frédéric Saïs évoquait ce matin dans sa chronique cette interview d'Edouard Philippe au Financial Times que le journal britannique avait titré. Finalement, il faut aider les riches, il faut donner davantage aux riches, réduction d'impôts pour les riches. Est-ce que finalement il dit ce que vous dites vous-même, ce Financial Times ?
Bah évidemment, ça fait un moment que nous le disons, puisque c'est ce qui transposait transpirait déjà du discours d'Emmanuel Macron et de son programme. Nous, il y a toutes sortes de mesures sur la fiscalité qu'on propose au gouvernement qui est sourd à nos propositions. Vous avez quand même noté que le CICE, avec le succès qu'on connaît, c'est 42 milliards. L'évasion fiscale, c'est plus de 80 milliards par an. Et puis, on a aussi mis sur la table des propositions en termes de réforme fiscale. On est aujourd'hui avec 5 tranches d'impôts, qui fait que tout l'effort est lissé sur les classes moyennes. On propose, nous, par exemple, de lisser l'effort sur 14 tranches. Donc des chantiers en matière de fiscalité, il y en a bien sûr. La question c'est comment on répartit l'argent et visiblement le gouvernement a fait son choix.
Adrien Quatrenin, on vous retrouve tout à l'heure donc dans la séquence interview. La Maison-Blanche, toujours empêtrée dans l'affaire des ingérences russes. Le fils aîné de Donald Trump a reconnu hier avoir rencontré une avocate russe. C'était en pleine campagne électorale présidentielle et selon le New York Times ce matin, la rencontre visait bien à obtenir des informations embarrassantes sur la rivale démocrate de M. Trump, Hillary Clinton, auprès de cette avocate qui serait liée au Kremlin, Nadine Epstein.
Et c'est par mail que Donald Trump Jr. a été mis au courant avant sa rencontre avec l'avocate Natalia Vezeniskaya, que ce rendez-vous visait à favoriser la candidature de son père et à ébranler Hillary Clinton. Il s'y est rendu, accompagné par Jared Kushner, gendre et proche conseiller de Donald Trump, et par le directeur de campagne Paul Manafort. Selon le New York Times, qui a révélé l'information, cette avocate, proche du pouvoir de Moscou, transmettrait des renseignements embarrassants sur Hillary Clinton, et ce, dans le cadre de l'effort russe pour faire gagner Donald Trump. La rencontre, qui aurait duré entre 20 et 30 minutes, s'est tenue moins d'une semaine avant que l'on ne sache que des hackers russes étaient à l'origine d'un piratage des emails du Parti démocrate. L'avocate de Donald Trump Jr. soutient que l'entrevue a été suggérée par Rob Goldstone, un agent de relations publiques qui affirmait que des gens avaient des informations concernant des fautes présumées d'Hillary Clinton dans ses relations avec la Russie. Mais l'avocat conclut qu'en fin de compte, rien d'intéressant n'est sorti de cet entretien, Donald Trump n'en a rien su et en définitive, Donald Trump Jr. n'a rien fait de mal. Pourtant, plusieurs enquêtes, dont une menée par le FBI, sont en cours aux États-Unis. Elles concernent des accusations de collusion entre la Russie et des membres de l'équipe de campagne de Donald Trump. Le président américain assure avoir fermement interrogé son homologue russe à deux reprises sur son intervention dans l'élection et Vladimir Poutine a catégoriquement nié toute action. Et concernant la rencontre avec l'avocate russe, un porte-parole du Kremlin a rejeté tout lien hier. Nous ne savons pas qui est cette personne. Et bien entendu, nous ne pouvons pas être au courant des rencontres de tous les avocats de Russie, que ce soit à l'intérieur du pays comme à l'étranger. Fermez les guillemets.
Nadine Epstein, merci. Ce grand oral maintenant devant le Comité international olympique pour Paris et Los Angeles. Ce sont les deux villes qui présentaient ce matin leur dossier de candidature à l'organisation des Jeux 2024. Le CIO doit entériner en principe dans l'après-midi le principe d'une double attribution de ces Jeux à la fois pour 2024 et 2028. Rémi Brancato, bonjour.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Ça fait deux villes donc pour deux JO. Il ne devrait pas y avoir de perdants, il ne devrait y avoir que des gagnants sans doute ce soir. Mais Paris espère bien passer d'abord, c'est-à-dire passer en 2024.
Oui, et le suspense n'est pas franchement de mise ici dans ce centre des conventions de Lausanne. Les deux délégations ont désormais terminé les présentations officielles devant le CIO. 45 minutes, puis 30 minutes de questions-réponses pour chacune d'entre elles. Exercice très codifié. Et c'est Emmanuel Macron qui a emmené la délégation française. Il a réellement endossé ce costume de chef d'équipe. La réunion se passait à huis clos, mais on sait que le chef de l'État s'est exprimé 7 minutes en anglais et en français. Brillamment, nous dit son entourage, un discours politique engagé sur la place de la France dans le monde. Il a tenu à rassurer sur les questions de sécurité. On sait que c'est un des points qui questionne le CIO. Anne Hidalgo, pour sa part, la maire de Paris, a insisté sur le fait que c'est en 2024 que les Jeux doivent arriver à Paris, pas en 2028. Avec les Parisiens, dit-elle, nous avons préparé un véritable héritage, en ajoutant dans un calendrier de 7 années, façon de dire qu'il ne faut pas attendre 4 ans de plus, d'autant que dans le camp d'en face, dans le camp de Los Angeles, la porte semble encore plus ouverte. Écoutez Kazeh Wasserman, le président de LA 2024. Nous ne pensons pas que cette décision ne concerne que nous ou Paris ou la date 2024, dit-il. Cette décision concerne la direction future du mouvement olympique. Et nous, en tant que Californiens, nous voyons ça comme une opportunité. Notre objectif, c'est de servir au mieux les besoins du CIO, pas les nôtres. C'est pour ça que nous n'avons jamais fixé d'ultimatum pour 2024. Nous ne croyons pas aux ultimatums, mais aux partenariats, comme si l'histoire était déjà écrite en quelque sorte. C'est cet après-midi que les membres du CIO votent sur ce principe d'une double attribution. Au mois de septembre, tout laisse penser que le CIO votera pour attribuer simultanément les Jeux Olympiques de 2024 et ceux de 2028.
Rémi Brancato, merci beaucoup, avec Eric Audra à Lausanne. Les espèces de vertébrés reculent de manière massive, à la fois en nombre d'animaux et en étendue. Il ne resterait plus ainsi sur Terre que 7000 guépards, 35 000 lions, 80 000 orang-outans et 97 000 girafes, chiffres publiés dans un article de la revue américaine de l'Académie des sciences. Et les auteurs parlent d'une défaunation aux conséquences potentiellement graves pour les écosystèmes. Laure Verneau.
Oui Antoine, cette étude montre que plusieurs mammifères qui se portaient bien il y a une ou deux décennies sont maintenant en voie de disparition, ce qui à l'échelle de la Terre est très rapide. Et ce qui est alarmant, c'est qu'on ne parle pas du panda roux ou du tigre de Sibérie, on parle d'espèces communes, comme le chardonneret, ce petit oiseau au plumage safran qui mange les chenilles au fond de votre jardin. Au fond de votre jardin, ou plus exotique, la girafe. Ces disparitions massives d'espèces sont un prélude à leur extinction, d'où la sonnette d'alarme. Ça entraîne ce qu'on appelle en écologie des cascades trophiques. Il suffit qu'une espèce disparaisse de l'écosystème pour que tout soit perturbé. Si le lion n'est plus là pour manger la gazelle prolifère et bientôt il n'y a plus assez d'herbe dans la savane pour la nourrir.
Alors une question peut-être un peu technique, comment on fait pour compter les chardonnerets ou les girafes?
Alors c'est simple, les scientifiques ont utilisé la base de données de la liste de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il s'agit du recensement mondial le plus complet en termes d'animaux. Et puis pendant plusieurs années, ils ont examiné les évolutions des populations de 27 600 espèces de mammifères, oiseaux, amphibiens terrestres répartis sur les 5 continents. Pour les girafes, vous l'avez dit, sachez qu'elles sont par exemple passées de 115 000 spécimens à 97 000 en l'espace de 30 ans seulement. L'autre point assez novateur dans cette étude, c'est la répartition géographique qui rend les données beaucoup plus précises. Les tropiques sont par exemple les zones les plus touchées, car les plus riches en termes de faune. Non seulement les espèces disparaissent, mais leurs aires de répartition se rétrécissent. Alors les causes sont multiples, géologiques, climatiques, environnementales. Mais ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que l'homme perturbe ces facteurs. Surexploitation pétrolière, urbanisation, pollution. La conclusion de l'étude est formelle. On ne dispose que de deux ou trois décennies pour rectifier le tir.
Laure Verneau, merci. Retour à l'invité de la séquence interview, Adrien Quatennens, député France Insoumise du Nord, avec Christine Moncla, donc à l'Assemblée.
Bonjour.
Bonjour Christine, c'est à vous.
Adrien Quatennens, bonjour. 27 ans, vous êtes le Benjamin du groupe La France Insoumise à l'Assemblée. Comme le soulignait tout à l'heure Antoine Mercier, vous avez été remarqué hier pour votre intervention face à la ministre du Travail, notamment beaucoup de formules choc, punchline comme on dit. Il y a la patte de Jean-Luc Mélenchon derrière. Vous aviez écrit cette intervention avec lui ?
Non, absolument pas. Pour le coup, c'était une surprise pour lui aussi. On avait discuté juste avant de mon intervention et je lui avais dit voilà, je voudrais avoir ton avis après coup. Mais non, j'ai écrit ça ce week-end à Lille. patiemment en essayant de trouver le bon format parce qu'il fallait tenir sur la demi-heure qui nous était consacrée dans le cadre de la motion que nous défendions. C'était le temps qui nous était accordé. Et puis l'intervention avait plusieurs vocations, non seulement répondre à la novlangue qu'utilise la ministre, également essayer de tâcher de semer le doute chez nos collègues de La République En Marche. Et puis aussi, il faut le dire, ces interventions ont vocation à être utilisées à l'extérieur de l'Assemblée. Dans un moment où, on le voit bien, la confusion règne et il faut permettre aux Français d'avoir conscience des enjeux de ce texte. Et donc, nos interventions visent aussi à cela.
Vous parlez de novlangue, peut-être un exemple pour les auditeurs de cette novlangue.
Bah, écoutez, on a toujours, avec le gouvernement, de bonnes intentions de façade. Pour mieux ensuite faire le contraire dans le texte. Je veux dire, quand on dit il faut faire confiance au dialogue social, a priori, c'est qu'une bonne intention et qui pourrait en douter.
Et libérer le travail aussi, par exemple.
Voilà, libérer le travail, faire le pari de la confiance, tout ça sont des jolis mots. Édouard Philippe avait dit dans son discours de politique générale que les moyens étaient limités, mais visiblement, les belles paroles, elles ne le sont pas. Donc en vérité, nous, ce qu'il y a à faire en urgence, c'est de démasquer les intentions du gouvernement qui avancent masquées, véritablement. C'est-à-dire, on dit, voilà, on va libérer le travail, on va libérer les énergies, c'est l'urgence. Et derrière, c'est la baisse des protections des salariés que nous avons, et on le voit bien dans le texte.
La ministre du Travail vous a accusé hier d'être anti-dialogue social, justement.
Oui, oui, bien sûr, mais je veux dire, moi, contrairement à la ministre, mes interventions et mes textes sont clairs. Et c'est pas flou comme ce projet de loi dans lequel on doit lire entre les lignes. Donc ce que j'ai dit sur le dialogue social, je le répète, je crois absolument à l'idée qu'un dialogue social serein puisse avoir lieu. En attendant, ce que je dis, c'est que dans la bouche de ce gouvernement, le dialogue social, c'est un anathème pour permettre d'éviter de voir qu'en fait derrière, c'est surtout plus de pouvoir patronal et c'est une négation en plus des rapports de force qui existent dans l'entreprise. Et quand on dit ça, vous avez une réaction immédiate des députés de La République En Marche qui consiste à dire que nous ne serions des gens qui pensons que le travail ce n'est que du rapport de force. Je me suis efforcé dans mon intervention de dire que le travail ne pouvait pas être résumé à un rapport de force, mais qu'en revanche on ne pouvait pas nier que le travail était le lieu où s'exprimait le lien de subordination entre le salarié et l'employeur, mais aussi le lieu où il y avait des rapports de force entre des acteurs aux intérêts divergents. C'est ne pas le dire et ne pas l'assumer.
Finalement, l'existence de ce conflit, de l'existence même d'un conflit, c'est ça qui vous oppose finalement à La République En Marche, ni droite ni gauche. On va essayer d'éviter d'aller de l'avant, précisément vers quelque chose qui a été expertisé, qui est le bien de tous. Et vous, vous dites non, il existe encore toujours des tensions, des dualités qui s'opposent et qui s'opposent nécessairement.
Et j'insiste sur un point, vous avez raison, mais j'insiste sur un point, c'est que c'est un fait. C'est-à-dire qu'il faut nous faire la démonstration du contraire. Prouvez-nous, à ce moment-là, qu'un employeur et un salarié dans une entreprise dialoguent d'égal à égal. On sait bien que ça se passe pas comme ça. Le salarié n'arrive pas le matin au travail en disant « Tiens, aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait dialoguer de mon salaire, parlons-en. » Donc, quelque part, c'est nous vendre, encore une fois, cet écran de fumée qui vise à masquer la réalité. Non, nous, ce que nous disons, c'est que non seulement la protection des salariés n'influe en rien sur la question du chômage, parce que le quinquennat précédent, on a fait la démonstration, parce qu'il y a des brèches qui ont été ouvertes et ça n'a pas influé le chômage à la baisse. Et puis par ailleurs, il faut un code du travail qui soit réellement protecteur et émancipateur dans un cadre où les salariés ont de plus en plus de difficultés à faire valoir leurs intérêts, face notamment aux exigences des actionnaires qui, eux, sont les grands gagnants de l'affaire. Je rappelle que le quinquennat précédent, la finance devait être l'adversaire. Elle ne s'est jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui.
Dans la nuit, quelques amendements de l'opposition qui ont été adoptés. Ça veut dire quoi, à votre avis, que les députés de La République En Marche ont commencé à s'en soumettre ? Avec vous, vous les avez appelés hier à s'en soumettre, que le doute que vous voulez instiller a commencé un petit peu à...
En tout cas, moi, ce que j'ai vu surtout, c'est que dans la feuille des amendements qui ont été acceptés par le rapporteur, il n'y en a aucun de la France Insoumise, malgré que nous soyons le groupe qui avons déposé le plus d'amendements, en tout cas en commission. Non, après, bah, il faut qu'il y ait du dialogue. Maintenant, moi, j'ai eu la sensation hier soir de revivre à plus grande échelle ce que j'avais vécu en commission. C'est-à-dire les mêmes arguments, la même succession de refus à nos amendements, alors que véritablement, nous, on ne fait pas les choses par mauvaise foi. Là, on n'est pas en train de rigoler ou de jouer simplement un jeu d'obstruction. On essaye de démontrer, de décrypter et de proposer, et rien ne passe, parce que bien évidemment, ce qu'on propose, nous, subvertit la logique du texte. À un moment donné, mon camarade Alexis Corbière a même fait une proposition qui me semblait honnête. Il a dit « Mais puisque, Madame Pénicaud, vous défendez le fait que votre texte ne procède pas à l'inversion de la hiérarchie des normes, notons-le dans le texte. Notez dans le texte que nous ne touchons pas à la hiérarchie des normes. Au moins, ça serait honnête. Vous, ce que vous dites, c'est écrit noir sur blanc et nous, ça nous convient. »
Oui, mais enfin, elle le dit, elle n'a pas tort complètement parce qu'elle dit simplement qu'il y aura des domaines qui vont passer du côté de l'entreprise, mais il restera que la branche, ce qui restera dans le domaine de la branche, continuera de primer sur ce qui est dans l'entreprise. Simplement, on fait passer des choses d'un côté à l'autre.
Bien évidemment, sauf qu'elle dit ça alors que l'article 1er de la loi consacre l'accord d'entreprise comme l'accord central. Tout le projet de loi vise à faire en sorte que d'autres personnes que les représentants du personnel puissent dialoguer et négocier avec l'employeur. Et puis véritablement, quand vous regardez ce projet de loi, par nature, en fait, il ne dit pas ce qu'on va faire du Code du travail. Il dit sur quel périmètre le gouvernement pourra légiférer. Et moi, je vous prie de croire que quand on discute avec des juristes et des spécialistes et qu'on laisse travailler un peu notre imagination sur ce que pourrait éventuellement faire le gouvernement avec ce texte, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. C'est pas de nous dire précisément ce qu'on va faire, c'est ce qu'on pourrait faire. Et quand on laisse travailler notre imagination en disant ça, par exemple, est-ce qu'il pourrait le faire ? Il s'agit de lire entre les lignes, mais effectivement, il pourrait. Donc c'est gravissime, parce que non seulement sur le fond, on va beaucoup plus loin que tout ce qui a été fait précédemment, puis en plus, vous avez quand même vu la forme. La méthode des ordonnances, elle est contestée, et pas que dans les rangs de la France insoumise. Et surtout, nous, ce qu'on dit, c'est que rien ne justifie cet empressement. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'on aille vite, sinon le fait qu'on veuille que personne ne se rende trop compte de ce qui est en train de se faire ?
Dernière
Merci
question,
Adrien,
peut-être une dernière question.
Caténins, député, 27 ans, député imaginatif de la France insoumise. Merci à Raymond Albouy pour les moyens techniques. En direct de l'Assemblée nationale.
Merci à vous.
Merci beaucoup Christine Monclin, merci Adrien Caténins donc d'avoir accepté d'être en ligne en direct de l'Assemblée. La météo, un temps gris sur la moitié nord du pays, ensoleillé au sud, des températures de 19 à 24 sur la moitié nord, 23 à 31 sur le sud, localement jusqu'à 34 degrés en Provence. C'est la fin de cette édition réalisée avec Yacine Bouzard et le prochain journal est à 18h avec Catherine Dutu.